Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, c'est tout, Seigneur, ce que nous sommes, ce que nous avons, Seigneur, t'appartient, est à toi, Seigneur. À toi, nous l'abandonnons. Nous sommes, Seigneur, ce sacrifice vivant, cette offrande vivante, Seigneur, qui fait partie du culte, Seigneur, raisonnable, Seigneur, auquel tu t'attends. Nos membres, Seigneur, notre vie, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, Seigneur, puisse servir à la gloire de ton nom. Puisse servir, Seigneur, à ton royaume. Peu importe, Seigneur, notre arrière-plan, comment nous sommes constitués aujourd'hui, ce que nous n'avons pas, Seigneur. Ce soir, nous remettons, Seigneur, entre tes mains. Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta parole, qui également, Seigneur, est puissante, efficace. Tu fais de grandes choses au milieu de ton peuple, Seigneur. Et tu feras de grandes choses également au milieu de nous ce soir, à travers, Seigneur, ta parole. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen, amen. Avant d'aller dans la parole, premièrement, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Content de vous voir, vous qui êtes ici présents et ceux qu'on ne voit pas, mais qu'on sait que vous êtes connectés. Également, que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on prie pour... vous connaissez les événements, non? Ce qui s'est passé au Texas dans cette école. Et on, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, mais en tant qu'enfant de Dieu également, ça doit nous interpeller, nous frapper de voir la méchanceté, le mal qui n'a aucun respect pour la vie, pour la création de Dieu et cherche à tout, par tout moyen de détruire, de causer de la destruction dans la société, dans le monde, dans l'humanité. Et même si ce sont des gens que nous ne connaissons pas, il y a probablement des frères dans la foi, frères et sœurs dans la foi qu'aujourd'hui pleurent le décès, la perte d'un enfant. Dans des circonstances vraiment horribles. Et je pense que c'est notre devoir minimum de prier pour ces gens-là, de prier pour cette communauté-là. En même temps, de prier pour nos gens qui sont dans le besoin ce soir. On a prié dimanche pour le papa du frère Samy, frère David, qui avait, au moment où on était en assemblée, en réunion, il subissait une opération à cœur ouvert. Donc, l'opération s'est bien déroulée. Il est en train de récupérer tranquillement, mais ce n'est pas une petite éraflure. C'est majeur comme intervention qui va certainement demander du temps pour récupérer. Donc, que Dieu vraiment continue à garder sa main sur lui. Gardons également la sœur Sue Phillips. En prière, la sœur Livie également, pour les décès respectifs dans leur famille. Et d'autres requêtes que vous pouvez avoir, des gens que vous pouvez connaître, présentons-les devant le trône de grâce en ce moment. Ils vont tous la voir et prions. Alléluia. Nous sommes dans une maison de prière, justement. Alors nous pouvons élever notre voix, invoquer le nom du Seigneur, demander sa grâce. Demander sa miséricorde, lui rendre grâce pour sa fidélité. Oui, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur, sinon à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Tu as les paroles que nous avons besoin d'entendre, ta parole qui est esprit, qui est vie, qui vivifie, qui transforme. Ta parole, Seigneur, qui crée. Toutes ces choses, Seigneur, que seulement nous pouvons trouver en toi, te rendons grâce, Seigneur. Et nous voulons présenter, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, toutes ces situations qui nous touchent ou qui touchent, Seigneur, nos bien-aimés. Seigneur, parce que tu es bon. Tu es le Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix. Et Seigneur, tu consoles et tu bénis et tu agis au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons demander, de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Et ce soir, nous savons qu'il y a des bien-aimés au milieu de nous, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de cette compagnie, de ce réconfort, de cette paix, Seigneur, qui se trouve seulement en toi, dans ces temps de deuil et de tristesse. Prions pour la sœur Sue Phillips. Nous prions, Seigneur, pour la sœur Livy, Père. Éternel, nous les présentons devant ton trône de grâce, Seigneur. Que ta bonté et ta miséricorde, Seigneur, ne les quittent pas, Seigneur. À aucun moment, Seigneur, ta présence, Seigneur, s'éloigne de leur vie. Que tu puisses également les entourer de bonnes personnes, Seigneur, de personnes qui vont être vraiment un support, Seigneur, pour leur vie, Seigneur Jésus, en ces temps si difficiles. Et merci, Seigneur, que dans ces moments-là également, tu me permets à l'Église de se mobiliser, Seigneur, et de venir aux soins de ses enfants, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour le papa, Seigneur, également de le frère David Camacho, Seigneur, le père de Samy, également, Seigneur, que tu puisses continuer ton œuvre en lui. Seigneur, c'est toi qui décides quand c'est le temps de partir ou quand il faut rester. Seigneur, si tu lui accordes encore du temps, Seigneur, que ce soit pour la gloire de ton nom, Seigneur, que ce soit bénéfique pour ton œuvre, Seigneur, pour ton royaume. Nous t'avons prié, Seigneur, sachant, Père, que tu écoutes et que tu entends et que tu agis. Seigneur, nous avons également été témoins, Seigneur, dans les nouvelles de ce tragique, Seigneur, cette abomination, Seigneur, tragique, Seigneur, de cette tuerie, Père, au Texas. Nous ne connaissons pas ces gens. Il y a peut-être, Seigneur, des frères, des sœurs dans la foi qui aujourd'hui pleurent, et d'autres, Seigneur, qui sont marqués, Seigneur, par ces événements. Père, toi seul, Seigneur, sais quoi faire et sais comment le faire, Seigneur, dans des situations comme telles. Nous implorons, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde également sur leur vie, sur cette communauté, Seigneur. Tends ta main, Seigneur, de grâce. Et qu'en toute chose, Seigneur, tu sois glorifié. Tu sois glorifié. Et que des gens, Seigneur, viennent à tes pieds, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Que ta parole ce soir soit inspirée, Seigneur, et inspirante. Seigneur, qu'elle puisse nous toucher, nous interpeller, nous parler, Seigneur. Tout est sous ton contrôle, tout ce qui est ici, Seigneur, tout ce qui se fait, se dit, est sous le contrôle et la gouvernance de ton esprit, Seigneur. Que ce soit avec de simples paroles, Seigneur, mais une parole vivante, une sagesse de Dieu, nous puissions, Seigneur, entendre et recevoir pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse au chapitre 3. Nous allons lire du verset 14 au verset 22. Donc, comme vous le savez certainement depuis quelques semaines, à chaque fois que j'étais assigné à apporter la parole le mercredi, on faisait une petite étude sur les lettres envoyées aux sept églises qu'on retrouve dans Apocalypse. Et aujourd'hui, dans le fond, on conclut cet enseignement avec la septième et dernière lettre à l'église de Laodicée. Donc, nous allons faire la lecture dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14, nous lisons. « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. aie donc du zèle et repens-toi. Aussi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pouvez-vous asseoir? Donc, si faisons un petit survol, petit résumé de ce que nous avons vu précédemment avec les six premières lettres aux églises, eh bien, première lettre est envoyée ou est adressée à Éphèse. Et ce qu'on avait ressorti de cette lettre, c'était de revenir à son premier amour. Dans le fond, un reproche que le Seigneur avait à cette congrégation, une congrégation qui était très bien organisée, que tout roulait très bien, ils étaient très zélés, très attachés également à la parole, à la doctrine, à la vérité, et il n'y avait pas de souci à contester, ou du moins à la défendre. Eh bien, il y avait un problème profond. Et c'était qu'ils avaient abandonné leur premier amour, et donc l'avertissement était justement de revenir à ce premier amour, cet amour envers Dieu, mais également cet amour pour son prochain. Deuxième lettre fut adressée à l'église à Smyrne, et le sujet que nous avions retenu ici, c'était d'être fidèle jusqu'à la mort. Dans le fond, le Seigneur annonçait à cette église qu'il vivait déjà de la persécution. Le Seigneur a annoncé qu'il allait en avoir encore davantage, mais de rester fidèle et fidèle jusqu'à la mort et qu'il y aurait de grandes récompenses. Troisième lettre, elle était adressée à Pergame. Et ce que nous avions parlé par rapport à cette lettre, c'était l'importance de vivre sans compromis. À Pergame, il était facile de faire un compromis avec ce qui déplaît Dieu, avec l'idolâtrie, avec l'immoralité au niveau sexuel. C'était monnaie courante dans la ville et bien des fois également, c'était la façon de rentrer dans le système, la façon de s'intégrer dans la société. C'était à travers l'idolâtrie, à travers le culte aux idoles et les pratiques qui venaient avec. Et donc, le message ici était de vivre sans compromis. Quatrième lettre à l'église de Thyatire, c'est là où ce que Jésus mentionne la présence d'une femme qui se prétend prophétesse et que Jésus mentionne ou l'appelle du nom de Jézabel en faisant référence avec la reine païenne, idolâtre, dans l'Ancien Testament qui a dans le fond conduit le peuple de Dieu vers l'idolâtrie, vers toutes sortes d'abominations. Et qui représente un caractère fort, autoritaire, séducteur, manipulateur. Tout cela était en action dans l'église à Thyatire. Et le problème, c'est que les dirigeants, ou les chrétiens, les vrais croyants, ont permis, ont laissé que Jézabel fasse ces choses. S'ils n'auraient pas laissé ou permis qu'elle fasse ces choses, eh bien, sûrement qu'ils n'auraient pas eu les afflictions qu'ils étaient en train de vivre à cause de cela. Donc, ne pas tolérer l'intolérable, c'était le message. Cinquième lettre à l'église de Sardes, et ici on nous parlait d'être authentique, mais aussi d'être vigilant. Et la dernière fois que j'étais ici devant vous, un mercredi, c'était la sixième lettre qui était adressée à l'église de Philadelphie. Et le message qu'on retenait ici, c'était de garder la parole. À plusieurs reprises, Jésus disait justement de garder la parole. Si on perd la parole, nous avons perdu, nous avons tout perdu dans le fond. Tout ce qui est important pour nous se trouve dans la parole de Dieu. Et d'où l'importance de la garder. Pas juste de la garder et dire, ben, j'ai une Bible, je la garde avec moi dans mon sac. Non, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire de la garder dans notre cœur, de la garder dans nos pensées, de méditer jour et nuit comme Dieu avait donné l'instruction à Josué. Médite dans la loi. C'est-à-dire, la loi, c'était la parole que Josué avait à cette époque-là. C'était la loi. Il dit, médite la parole et tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre parce que tu vas être sous la couverture et la grâce à travers la parole. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière lettre, c'est la septième lettre à l'église de Laodicée. Comme d'habitude, on vous présente, je vous présente toujours un petit contexte, peut-être historique, un peu géographique des fois, de la ville, parce que, comme on l'a pu constater, tout ce que Jésus écrit dans les lettres, les symboles, les différentes choses auxquelles Jésus fait référence, est très spécifique et très particulier à la ville, à l'église et au contexte. Donc, Jésus emploie des références qui vont parler à ces croyants-là, qui vont comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire. Donc, lorsqu'on parle de Laodicée, eh bien, on parle encore d'une ville importante et toutes les sept villes sont à peu près dans la même région qu'aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, se trouve en Turquie. Peut-être sous différents noms, certaines de ces villes ont disparu, elles faisaient partie de l'ancien monde, mais elles ont existé et aujourd'hui, on peut trouver des vestiges, des ruines parfois dans la Turquie, en Turquie. Donc, à l'époque, Laodicée était une ville importante pour le commerce, très florissante, très riche, très prospère. C'était un centre financier, un centre de commerce, un centre bancaire aussi. Il y avait au moins une banque à l'époque et ils étaient très prospères dans la production textile, mais également beaucoup de gens allaient à Laodicée. Beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec leurs yeux allaient là-bas parce qu'il y avait une industrie médicale également, si on peut le dire comme ça, une industrie médicale où il y avait des traitements pour les yeux qui disaient apparemment ils étaient bons. Donc, ça attirait l'attention de tous les gens dans l'Empire romain. Les gens allaient à Laodicée pour également recevoir traitements, médicaments pour les yeux. Et donc, les habitants jouissaient d'une très grande prospérité. Et avec cette prospérité-là, ils jouissaient également d'une indépendance financière, économique, totale. Face à l'Empire romain, face aux autres villes, face aux autres peuples, Laodicée n'avait pas de problème. Indépendant, riche, prospère, le meilleur, quoi. Et ils en étaient très fiers. On raconte que après un tremblement de terre qui a détruit la ville vers l'an 60, les citoyens de la ville ont dit à l'Empire romain, on n'a pas besoin de ton argent, on voit pas des fonds, on voit pas d'argent, nous-mêmes on va reconstruire la ville. Alors que d'autres villes dans la même région, eux autres, ils attendaient de l'aide de Rome, et ils ont demandé du soutien économique de l'Empire romain pour pouvoir se remettre sur pied et rebâtir la ville. Mais dans le cas de Laodicée, ce ne fut pas le cas. Ils étaient vraiment indépendants. Ils ont dit, Rome, tu peux garder ton or, ton argent. Nous, on va s'occuper de nous-mêmes et on va reconstruire sans l'aide de personne au niveau financier. Et donc, verset 14, nous rentrons dans le contexte, dans l'introduction. Et je vous ai dit, comme d'habitude, à chaque fois, Jésus se présente d'une façon différente. Pour chaque lettre, il donne ou il se présente sous un ou différents aspects, mais qui sont importants, qui parlent lorsque nous analysons un petit peu plus le texte et également le contexte de la ville. Nous lisons, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Trois choses. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Nous savons qu'est-ce que Amen veut dire. Ainsi soit-il. C'est-à-dire ce que tu dis, Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis. Et en d'autres mots, lorsque Jésus se présente comme l'Amen, c'est que ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est un Dieu de parole et d'action également. Il tient ses promesses. Il n'est pas menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Fidèle et véritable, eh bien, il est le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire, il a la vérité. Il est capable de parler avec autorité parce qu'il est fidèle. Il n'est pas menteur, donc vaut mieux écouter ce qu'il a à dire. Et lorsqu'il dit le commencement de la création de Dieu, eh bien, c'est bien avant l'existence de Laodicée. Donc, bien avant l'existence même du monde et bien avant même l'existence de l'Église. Parce que Jésus, tout a été créé en lui, mais c'est également lui qui est celui qui met la base pour la nouvelle alliance, pour la nouvelle créature. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais nous savons que toute chose a été créée également en Christ et pour Christ. Donc, bien avant l'existence de l'Église de Laodicée, eh bien, Jésus-Christ était là. Et l'Église, même de l'Église de Laodicée, qui se disait également indépendante, qui vivait dans un contexte où ce qu'on était fier, où ce qu'on était, on n'avait pas besoin de personne, eh bien, Jésus, en disant qu'il est le commencement de la création, c'est-à-dire même l'Église est dépendante de Jésus-Christ. Donc, c'est important ces trois éléments-là parce que Jésus, dans le fond, met la table pour ce qu'il va amener comme constat dans l'Église. Donc, il fait ce qu'il dit, ce qu'il proclame, il l'accomplit. Il est fidèle et véritable. Donc, sa parole est vérité. Ce qu'il dit a du poids, il faut l'écouter. Et toute création est dépendante de Jésus-Christ. Donc, bien avant l'existence de Laodicée, bien avant la création même. Donc, il était important. Dans le fond, Jésus est en train de dire, ce que j'ai à dire, ce qu'il y a dans cette lettre-là, est importante pour vous, gens de Laodicée, qui vous croyez indépendants. Et cette indépendance, ce n'était pas juste au niveau financier, mais l'Église également avait un peu cette indépendance spirituelle et morale parce qu'ils confiaient beaucoup dans leur richesse, confiaient beaucoup dans le matérialisme et ça mettait Dieu dans un second ordre. Verset 15, verset 16, nous lisons, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Wow, ça c'est fort. Probablement que parmi les sept lettres, ce constat-là est le constat le plus fort que Jésus fait sur une église. Et ici, il faut rectifier quelque chose, parce que bien souvent, on utilise ce passage-là pour dire, voyez, il faut être bouillant pour Dieu. Il faut être rempli du feu, du Saint-Esprit, puis il faut être passionné, bouillant pour Dieu. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Jésus dit, tu n'es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, c'est des fois une erreur qui se fait dans la référence, parce que Jésus n'est pas en train de dire, il faut être bouillant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Laodicée, malgré sa grande richesse, malgré son commerce florissant et prospère et tout ça, et les industries qu'il avait en elle, avait un problème avec l'approvisionnement en eau potable. Il n'y avait pas d'eau. Il fallait faire venir l'eau. Et donc, les habitants ont construit une espèce de système de canalisation provenant de, qui faisait passer, dans le fond, l'eau qui passait par des villes avoisinantes pour qu'elles viennent et rentrent dans la ville. Et parmi ces villes avoisinantes, une était Colosse et l'autre était Hiérapolis. Le problème avec l'eau comment ça s'appelle, dans la Odyssée, c'est qu'elle était riche en minéraux, ce qui faisait en sorte qu'elle était de mauvais goût et il y avait une odeur très forte. Donc, tout ce que les gens préparaient, que ce soit pour manger, pour laver avec cette eau-là, ben, l'odeur restait, le goût restait. Donc, elle était de mauvais goût et donnait envie de vomir. Colosse était reconnu pour ses sources d'eau pure et froide. Et Hiérapolis, eh bien, il y avait des genres de bassins thermiques naturels qui faisaient en sorte que l'eau était très chaude, dans une température très, très élevée. Le problème, c'est que lorsque il faisait parvenir ou faisait venir l'eau soit de Colosse ou de Hiérapolis dans la Odyssée, mais elle était plus froide ou elle était plus bouillante. Elle était à température ambiante. Elle était tiède. Donc même là, elle n'était pas bonne. Dans le fond, ils étaient mal pris avec l'eau. Et c'est là la référence que Jésus fait en parlant de que tu n'es ni bouillant ni froid. Il parle en utilisant cette symbolique-là parce que ça parle aux gens de la Odyssée, justement avec leurs problèmes en approvisionnement d'eau. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans le fond, il est en train de dire que les chrétiens, l'Église de la Odyssée, donnait envie de vomir à Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est que lorsque Jésus regardait la Odyssée comme s'il prenait la bouteille d'eau et il buvait, il avait envie de cracher l'eau et ça lui donnait envie de vomir. C'est ça le constat que Jésus fait de cette église-là. C'est assez fort. C'est assez fort comme constat. Et qu'est-ce que Jésus dit au début? Il dit au verset 15, je connais tes œuvres. Donc lorsque je goûte à tes œuvres, à ce que tu fais, Église, eh bien, tu me donnes envie de vomir. Tu peux être riche, tu peux manquer de rien, mais à mes yeux, ton goût me donne des nausées et me donne envie de vomir. Et la référence avec comment Jésus se présente, le Amen, le témoin fidèle et véritable, et le commencement de la création de Dieu, eh bien, Dieu connaissait les œuvres de la Odyssée et ce qu'il constatait, c'est que ils étaient le contraire carrément de Jésus. Ils n'obéissaient pas à la parole, donc ils ne vivaient pas dans la parole. Ce qu'ils disaient, ils ne l'accomplissaient pas. Donc, dans cette église-là, il y avait certainement de l'enseignement, il y avait certainement de la prédication, mais il n'y avait pas les œuvres qui suivaient la parole de Dieu. Donc, contraire carrément à l'image de Christ qui est le Amen, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Les gens de Laodicée étaient carrément le contraire. L'autre chose, c'était que le témoignage de l'église de Laodicée était pourri. Parce qu'ils n'étaient pas dans la parole de Dieu, parce qu'ils étaient dans le matérialisme et parce qu'ils se croyaient parfaits et bien devant Dieu, bien leur témoignage avait un sérieux problème. Leur témoignage n'était pas fidèle. Leur témoignage n'était pas vrai non plus, contrairement à Jésus-Christ. Donc même en parallèle avec Jésus, ils n'étaient pas en accord avec lui. Et le fait qu'ils se pensaient indépendants, même de Dieu, parce que Jésus leur dit, mais tu dis que tu n'as besoin de rien. Ça incluait Dieu. Tu dis, tu n'as besoin de rien. Donc même moi, tu dis, tu n'as pas besoin de moi. Donc tu vis une foi, tu vis une chrétienté, mais indépendante de moi. Donc même là aussi, il y a une erreur et une erreur très grave parce que c'est d'avoir une grande arrogance quand même de prétendre être chrétien, mais de vivre indépendant de Dieu. De prétendre avoir la foi, mais de ne pas vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est vivre en dépendance de Dieu. C'est vivre en ayant confiance dans Dieu, dans sa parole, dans ses promesses. Et donc, Jésus est en train de faire un constat et de dire, regardez, vous me donnez envie de vomir parce que votre témoignage n'est pas fidèle, n'est pas véritable, parce que vous n'accomplissez pas ma parole et parce qu'en plus, vous avez cette arrogance de vous croire indépendant, même de moi, parce que vous avez plus confiance dans vos biens, dans vos richesses que dans ma parole. Ça va jusqu'à maintenant? Donc, nous avons lu verset 15, verset 16. Donc, c'est pour ça qu'il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède. Je veux dire, personne n'aime l'eau tiède, n'est-ce pas? Je veux dire, quand il fait chaud, puis on vous sert un verre d'eau, puis l'eau est tiède, est-ce que vous êtes content? À moins 30 degrés, là. Vous rentrez à la maison après avoir pelleté, après avoir déneigé tout en avant, en arrière, les escaliers, vous avez les mains gelées, vous avez la misère à parler tellement c'est gelé là. Vous avez soif, vous espérez avoir mettons, un thé chaud ou un café chaud, puis on vous sert quelque chose de tiède. Est-ce que vous allez aimer ça? Non. C'est la même chose ici avec Christ. Puisses-tu être froid, au moins quand tu es froid, tu es pertinent, tu es utile, tu es vivifiant. Quand tu es chaud, tu es réconfortant, tu fais du bien. Mais quand tu es tiède, tu n'es pas attrayant, tu n'es pas intéressant. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ces gens-là avaient la prétention de dire qu'ils n'avaient besoin de rien, alors que la position de Dieu était carrément différente. Puis il leur dit, ben, tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es aveugle. Et tu es nu. Tu penses que tu es dans un niveau de spiritualité. Tu penses que tu es dans un niveau de maturité. Tu penses que tu es dans un niveau qui est agréable à mes yeux, mais dans le fond, c'est carrément le contraire. Carrément le contraire. Donc, c'est un choc, là. C'est bonjour la réalité, là. C'est un choc avec la réalité des choses. Et ça peut être quand même assez frappant pour l'Église. Donc, aveuglés par leur propre matérialisme, ben, ils vivent dans le fond un grand mensonge. Et ça, c'est triste, même pour des chrétiens, de vivre un grand mensonge en pensant que, ils sont bien spirituellement, mais qu'en réalité, ils sont loin. Mais ils sont loin de l'être. Nous allons avancer au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Il lui dit, viens acheter de l'or de moi. Ça aussi, ça leur parle, parce qu'il y avait des banques à la Odyssée. Et les gens avaient leur confiance sûrement dans l'or qu'ils avaient dans ces banques. Et Jésus leur dit, viens. Et la beauté dans tout ça, c'est que Jésus, malgré ce constat assez fort, assez mauvais, Jésus ne leur ferme pas la porte. Au contraire, il lance l'invitation et il leur dit, viens, je te conseille d'acheter de moi de l'or. J'ai un or meilleur que l'or que tu peux avoir, toi, dans tes richesses et dans tes biens. Et donc, l'or éprouvé par le feu, on fait référence au cœur, au caractère, à la maturité de la personne qui est purifiée, qui est travaillée par le Seigneur, qui passe à travers des épreuves, mais que ces épreuves sont nécessaires pour sa purification, sa perfection. Chose que les gens à Laodicée, eh bien, parce qu'ils confiaient plus dans le matérialisme, pour eux, pas d'épreuve, pas besoin de passer à travers cela. Vêtements blancs, les vêtements blancs, ça fait référence à quoi? À la justice de Dieu. Et à bien d'autres lettres, on fait également référence des vêtements blancs. Vêtements blancs qui étaient des vêtements d'honneur également. Lorsque les personnes importantes organisaient de grandes fêtes, de grands banquets, bien les gens venaient vêtus, les gens qui étaient invités étaient vêtus de blanc. Donc c'était une tenue vestimentaire appropriée pour la fête, appropriée pour le banquet, pour la célébration. Même chose lorsque le roi ou un général revenait d'une bataille victorieuse et qu'il y avait cette marche triomphale, également tous les gens qui suivaient, qui venaient avec lui, devaient être habillés de blanc, qui représentait vraiment un honneur. Mais ici, pour nous également, ça représente la justice de Dieu, la pureté qui nous permet d'avoir accès à la présence de Dieu, qui nous permet d'être dans la présence de Dieu, que pour nous, c'est notre banquet. Pour nous, c'est notre célébration. La présence de Dieu, c'est notre célébration. C'est notre fête. C'est notre banquet. On devrait se réjouir à tous les jours d'avoir la présence de Dieu, parce que pour nous, c'est une fête. Amen. Venir ensemble, louer le Seigneur, prier ensemble. Pour nous, ça doit être une joie, une fête, une célébration. On vient célébrer le Seigneur, triomphant, victorieux sur la mort, sur le péché, sur l'ennemi, sur le monde, sur tout ce qui veut nous détruire. Jésus a vaincu et conquis tout cela. Alors, il est plus que vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Jésus-Christ est notre banquet, est notre fête. Et Jésus-Christ nous invite à y prendre part, à être dans sa présence, à expérimenter sa présence. Donc les vêtements blancs sont importants. Et le collyre. Vous vous souvenez, en introduction, je vous ai dit, les gens allaient à Laodicée pour recevoir un traitement, une espèce de médicament pour les yeux, pour la vue. Mais ça également, Jésus leur dit, regarde, moi j'ai un collyre pour toi. J'ai un traitement pour toi. Viens vers moi et tu vas voir, tu vas regarder la vérité. Tu vas voir les choses d'après le regard de la vérité. Et tu vas marcher également dans la vérité. C'est-à-dire, tous les voiles de mensonges, toutes les apparences que tu t'es données dans la vie, tout cela, je vais les enlever. Et tu vas pouvoir me connaître, être libre de tout mensonge, et marcher dans la vérité. Donc, c'est une belle exhortation. En fond, même si le constat est grave et sérieux, Jésus ne ferme pas la porte. Jésus invite. Et c'est ça la beauté même pour nous aujourd'hui. Peut-être que notre bilan ou le constat qu'on a de notre vie, ce n'est pas fameux, même en tant que chrétien. Bien, Dieu ne te ferme pas la porte ce soir. Le Seigneur t'invite. Il te dit, viens, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, de l'or pur. Viens également prendre des vêtements blancs, la justice de Dieu à travers le sacrifice à la croix, pour avoir accès à ma présence. Et également, laisse que la vérité de Dieu enlève tous les masques, tous les voiles de mensonges dans ta vie, pour que tu puisses marcher et voir la vérité telle qu'elle. Versets 19 et 20, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » On voit ici l'amour de Jésus. Parce qu'il dit, je châtie ceux que j'aime. Et même si Laodicée avait cette arrogance, Laodicée avait ce faux témoignage, Laodicée vivait dans la désobéissance, si on peut dire, mais Jésus aimait cette église. Et même le châtiment était un signe de son amour. Et il désire un changement dans l'église. Et ce message qu'il envoie, c'est un message, dans le fond, qui est inspiré par son amour pour l'église. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Jésus invite. Jésus appelle. Et remarquez ici, il n'appelle pas des inconvertis. Il appelle les croyants. Il appelle l'église, Jésus, ici. Il dit, je me tiens à la porte et j'appelle. Donc, il invite les croyants à quoi? À ouvrir leur cœur. À des croyants, ouvrir leur cœur à Jésus, vraiment. Ben oui, ça arrive. Ça nous arrive à nous tous de vivre des choses, dans notre marche avec le Seigneur, par toutes sortes de décisions, de circonstances. On peut devenir insensible à Dieu. On peut devenir arrogant. On peut avoir le cœur dur. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, même s'il a vu tous les miracles avec les displays, il a vu la mer s'ouvrir, ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu la nuée, ils ont vu le rocher, l'eau sortir du rocher, ils ont vu des miracles par-dessus miracles, et les autres, ils avaient le cœur dur quand même. C'est-à-dire, on n'est pas meilleur. Et donc, oui, il est important et nécessaire pour nous, de temps en temps, ouvrir notre cœur au Seigneur, parce qu'il veut être en communion avec nous, mais dans une communion profonde et réelle. Lorsque, ici, dans la coutume de l'époque, lorsqu'on invitait quelqu'un à manger, à souper, à la maison, c'était parce qu'il y avait une communion profonde, une amitié, il y avait un honneur associé à cette invitation-là. Et donc, Jésus veut donner cette importance-là à nous, à la communion que nous pouvons avoir avec lui pour expérimenter sa présence, une présence qui est réelle dans nos vies. Et en d'autres mots, Seigneur, ce qu'il dit ici, c'est que si nous avons le Seigneur et si nous avons sa parole, nous avons tout. Nous avons tout. L'erreur grave de Laodicée, c'est qu'ils ont mis leur confiance dans leur richesse, dans leur bien matériel. Mais avec tout ça, le Seigneur leur dit, si tu as moi, si tu as ma parole, tu as tout. Tu ne manqueras de rien. Et il termine par cette expression, cette phrase qui revient, et on retrouve dans plusieurs passages, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je pense que même si ces lettres étaient dirigées à des églises qui ont vraiment existé dans ces villes, elles ont un message pour nous également par rapport à où est notre situation, comment est notre condition devant Dieu, comment est notre vie, comment sont nos œuvres, comment est notre lien avec la parole. Notre lien également avec le monde, est-ce que nous vivons dans des compromis avec le monde? Ou est-ce que nous gardons notre foi avec le Seigneur authentique, même si on doit perdre des choses dans le monde, même si on doit souffrir des choses dans le monde à cause du Seigneur? Bien des éléments que nous avons vus durant ces sept lettres, ces sept mercredis, doivent nous parler et nous améliorer également dans notre marche avec Dieu, dans notre préparation à rencontrer le Seigneur. Parce que le Seigneur revient. Et un jour, nous allons le rencontrer. Et il va être important aussi de voir et de se poser la question, bien, dans quel état le Seigneur va me trouver? Si je meurs ce soir, dans quelles conditions je vais rentrer et je vais passer à l'éternité? Ce sont des choses que pour nous, c'est important de s'arrêter des fois et de réfléchir, de prier. Dis, Seigneur, qu'est-ce qui est pertinent pour moi dans la situation dans laquelle moi je me trouve? Est-ce que j'ai un cœur qui s'endurcit de plus en plus? Est-ce que je fais des compromis de plus en plus avec des choses que je ne devrais pas faire? Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Enseigne-moi tes voies. Parce que, Seigneur, je veux vaincre. Et donc, celui qui a des oreilles, entende. Donc, ayons cette attitude-là, d'être réceptif à la parole de Dieu, d'écouter le cœur de Dieu lorsqu'il nous parle, parce qu'il a certainement quelque chose d'important et pertinent à nous dire. Donc, sur ce, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour sa parole et demander également qu'il nous parle de façon spécifique. Quelque chose a été donné pour toi. Quoi? Je ne sais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail de conviction dans ta vie. Mais certainement, il y a quelque chose dans sa parole ce soir qui est pour toi et qui est une bénédiction. Peut-être que tu ne le vois pas comme tel présentement, peut-être parce que c'est un constat qui n'est pas agréable, mais tout cela est pour ton bien. Tout cela est pour que tu puisses être en communion avec le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta parole, pour, Seigneur, la richesse qu'il y a en elle, parce que, Seigneur, si nous t'avons toi et nous avons ta parole, nous avons tout. Nous avons tout, Seigneur. Alors, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ces lettres qui ont été envoyées, Seigneur, il y a des siècles en arrière à des églises qui vivaient des circonstances différentes, mais qui sont toujours pertinentes et d'actualité, Seigneur, pour nous. Et Seigneur, tu nous parles et tu nous as parlé, et tu continueras, Seigneur, à nous parler à travers ta parole. Alors, Seigneur, que nous puissions retenir ce qui est important pour nous, de mettre en pratique, de mettre aussi devant ta présence, s'il y a des choses qui doivent changer. Seigneur, que nous ayons cette humilité, cette grâce de le reconnaître et de demander, Seigneur, ton aide. Peu importe la situation, peu importe le compromis que nous avons fait, Seigneur, que nous puissions nous approcher davantage de toi. Purifier, Seigneur, comme l'or pur, portant des vêtements blancs, Seigneur. Et avec un discernement clair et vrai, Seigneur, des choses, capable de distinguer le vrai du faux. Guéris, Seigneur, notre vue. Oui, Seigneur, guéris notre vision. Restaure notre vision, Seigneur. Restaure notre vision de toi, de la vie, Seigneur, de tout. Alléluia. Alléluia. Seigneur, raccompagne-nous, Seigneur, dans notre retour à la maison. Que ta parole, Seigneur, fasse son travail en nous. Que nous puissions voir les bénéfices, les fruits également d'elle, Seigneur, dans nos vies, dans l'Église, pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse alors. N'oubliez pas les activités de l'Église. Bénédiction matinale, 8h30 avec le pasteur Florent. Vendredi également en soirée, le temps de prière, d'intercession. Bon, la jeunesse, les réunions également, 19h30. Et dimanche matin, on se retrouve ici tous ensemble pour célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.